Et bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 novembre. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les discussions très attendues aujourd'hui entre Paris et Londres sur le dossier de la pêche. Dans ce journal, coup de projecteur sur les bateaux neufs. On va voir qu'ils sont en plein flou après les autres titres.
Rentrée scolaire masquée pour les élèves d'une soixantaine de départements français. Dans un instant, le point sur la reprise épidémique. En Éthiopie, les habitants de la capitale, Addis Abeba, craignent l'avancée des rebelles. Et puis en fin de journal, Douce France, l'histoire de la 5e République au théâtre et à 100 à l'heure.
Et nos invités ce matin, Léa, à 7h50 avec vous.
Et oui, il a 31 ans à peine et il vient de remporter le prix Goncourt pour la plus secrète mémoire des hommes chez Philippe Rey. Le jeune écrivain sénégalais Mohamed Mbougarsar sera avec nous à 7h50. Évidemment, j'ai envie de dire, comme
oui,
toutes les années.
Tous les
c'est
ans.
C'est la tradition.
À tout à l'heure, Léa, 8h20, ensemble, le grand entretien de la matinale avec le comédien et humoriste Patrick Timsit. Il fait ses adieux à la scène avec un tout dernier spectacle intitulé « Adieu, peut-être, merci, c'est sûr ». Si vous comprenez ce que ça veut dire, vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Ils n'ont jamais douté d'être les pions dans un conflit qui les dépasse. Les marins écossais du chalutier Cornelis ont quitté le Havre hier sans verser de caution. Le navire était depuis une semaine l'image des tensions entre Paris et Londres. C'est donc peu de dire que les discussions sont attendues aujourd'hui entre le français Clément Beaune et le britannique David Frost pour trouver une issue sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir par les pêcheurs pour pouvoir continuer à travailler. Et ça se corse pour les bateaux neufs qui ne disposent pas des preuves nécessaires. Faustine Calmel.
Quand Jean-Baptiste Houchard met à l'eau son tout nouveau chalutier de 25 mètres à Port-en-Bessin il y a bientôt 3 ans, le Brexit est déjà en vue, mais le marin conserve ses quotas et ne s'en inquiète pas. Sauf qu'aujourd'hui, ces documents, les Britanniques ne veulent plus les reconnaître, regrette Jean-Baptiste Houchard. Nous l'avons joint à bord de son navire.
J'ai vendu mon vieux bateau en conservant mes droits à produire. Et ça, le Royaume-Uni ne veut pas en entendre parler. Ce qui apparemment n'était pas inscrit comme ça dans le règlement Brexit. On est 6 mois de l'année sur les côtes anglaises. Et le fait de ne pas avoir mes accès aux 6-12 000 anglais, peut-être 25% de notre chiffre d'affaires.
Une perte qu'il compense en pêchant dans d'autres zones où les bateaux sont de plus en plus nombreux, au risque d'augmenter la pression sur les ressources, glisse le marin. Dans le même port, Jérôme Viclin a aussi investi dans un nouveau chalutier, l'Alliance, en 2019. Mais lui n'a pas conservé ses droits antérieurs.
Pour l'instant, je suis vraiment dans la dernière roue du carrosse. Et là, ouais, ça fait mal au cœur. C'est un bateau qui vaut 3,5 millions d'euros. Les traites sont conséquences. Donc là, on sera en difficulté et on se posera les bonnes questions. Pourquoi pas un plan de sortie de flotte? Donc c'est dommage de faire un bateau et au bout de 3 ans, de se poser la question de dire on va peut-être le mettre en plan de sortie de flotte, ça veut dire à la casse.
D'autant que ce qui attire les jeunes dans le métier défend l'armateur, ce sont aussi des navires neufs, plus confortables et plus sûrs.
Et en parallèle des discussions bilatérales franco-britanniques à Paris, des négociations constructives, en particulier sur ce thème des nouveaux bateaux, sont en cours à Bruxelles, où on se préoccupe surtout du non-respect par Londres du protocole nord-irlandais. Jusqu'à 3 heures du matin, les députés ont travaillé pour détricoter les modifications apportées par le Sénat au projet de loi vigilance sanitaire. Retour donc, comme le souhaite le gouvernement, à la possibilité de recourir au pass jusqu'au 31 juillet. Il n'y aura pas non plus de territorialisation pour le recours au pass. De toute manière, l'épidémie est en train de regagner du terrain. Dès lundi, pour la rentrée scolaire, les enfants de 57 départements métropolitains devront porter le masque, là où le taux d'incidence dépasse les 54 Covid pour 100 000 habitants. Alice Cachaner, une reprise assez homogène.
Le rebond épidémique n'épargne aucune région de France. Depuis début octobre, le taux d'incidence augmente de manière modérée et relativement homogène, observe l'ingénieur Guillaume Rosier, fondateur du site Covid Tracker.
On détecte actuellement environ 6 000 cas positifs, c'est en hausse de 10%. Chaque semaine, c'est donc une hausse qui est sensible, mais qui n'atteint pas les niveaux qu'on a pu atteindre ces derniers mois depuis le début de l'épidémie. On n'a pas un département ou un territoire qui se détache particulièrement.
Même constat à l'hôpital, avec des admissions en légère hausse, plus 5% en moyenne. Mais il y a toujours un décalage dans le temps. Difficile de savoir quelle tournure va prendre l'épidémie, estime le scientifique, qui invite à regarder la situation de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni.
La vague automnale au Royaume-Uni a débuté il y a quelques semaines déjà. Chez eux, on a observé un nombre très très fort de contaminations, de cas détectés, qui est au niveau des records du printemps dernier ou de l'hiver dernier. Mais par contre, on a observé des formes graves, des admissions à l'hôpital qui sont certes en hausse, mais qui n'atteignent pas les niveaux qu'on a pu atteindre par le passé.
Reste plusieurs inconnus, comme le climat, comment va réagir le virus aux températures automnales et combien de temps le vaccin nous protégera-t-il des formes graves.
Et la carte des 39 départements concernés par le retour du masque à l'école est sur franceinter.fr, où vous trouverez aussi une infographie sur la flambée des contaminations en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. La Lettonie déclare l'état d'urgence sanitaire pour 3 mois. Infection à des niveaux records, en particulier chez les non-vaccinés. Et puis le British Medical Journal rapporte qu'un sous-traitant de Pfizer aurait mal mené ses essais cliniques sur le vaccin. Le groupe texan Vantavia, chargé de pratiquer 1000 essais cliniques sur les 44 000 à travers le monde. Une employée qui a travaillé 2 semaines dans la société avant d'en être licenciée dit avoir été témoin de manquements comme des problèmes d'étiquetage ou de mauvaise conservation des vaccins. Pendant la pandémie, on s'est longtemps interrogé pour savoir si le monde d'après serait plus vertueux pour l'environnement que le monde d'avant. Espoir douché ce matin avec cette étude du Global Carbon Project. La pandémie n'aura été qu'une parenthèse et les émissions de CO2 ont repris de plus belle malgré les promesses de plans de relance verts. Les émissions dues au charbon devraient rattraper leur niveau de 2019. On en parle à 7h30. Médiation américaine en Éthiopie. Aujourd'hui, un an jour pour jour après le début de la guerre civile des forces fédérales contre celles du Tigré. Mais récemment, le cours du conflit s'est spectaculairement renversé, si bien que les rebelles menacent de marcher sur la capitale à Addis Abeba, Noé Ochebaudin.
Les habitants d'Addis Abeba sont appelés à réagir face à l'avancée rebelle. Les citoyens possédant une arme doivent créer des groupes d'autodéfense dans leur quartier. Et l'état d'urgence qui devrait être voté aujourd'hui ouvrira la voie à la conscription des hommes en âge de se battre. Pourtant, la capitale est encore calme. Pas de signe d'agitation ni de mobilisation particulière. Alors que les rumeurs circulent sur une progression extrêmement rapide des soldats tigréens vers Addis Abeba, leurs alliés Oromo, quant à eux, ont prédit qu'ils atteindraient la capitale dans des semaines, voire des mois. Nous allons noyer l'ennemi dans son sang et rendre sa gloire à l'Éthiopie, a déclaré le premier ministre éthiopien. Abiy Ahmed ne semble pas disposé à négocier la paix. Pourtant, c'est la raison de la venue de l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Fetman, plus tard dans la journée. Ce sera peut-être la dernière chance d'arracher un cessez-le-feu systématiquement refusé par les deux parties jusqu'à présent. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, France Inter.
Le Portugal vers des élections législatives anticipées de 2 ans. Le président devrait annoncer aujourd'hui la dissolution du Parlement. Le rejet du budget du gouvernement socialiste d'Antonio Costa a plongé le Parlement portugais dans l'impasse.
Il est 7h08 en France. Malgré la crise sanitaire, la pauvreté, Anaïs, n'a pas augmenté en 2020.
Oui, selon les estimations de l'INSEE, le taux de pauvreté reste stable à 14,6% de la population. Ça représente plus de 9 millions de personnes en France. En revanche, certaines situations de pauvreté se sont aggravées. Pour ceux qui touchent le RSA, le revenu a baissé en moyenne de 7% à cause d'un retour moins fréquent à l'emploi, comme a pu le constater Mariam El-Kurdi avec ses bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Émile, 59 ans, se rend tous les 2 mois dans une association de quartier du nord de Paris. Il a rendez-vous avec une conseillère en insertion. Il y a encore 2 ans, il travaillait à son compte dans le bâtiment. Revenu moyen de 1000 euros par mois. Mais 2020 a été la plongée dans la pauvreté.
J'avais beaucoup de boulot avant. J'ai travaillé partout, Normandie, Lille, partout. J'ai fait. Et maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est fini. Là. Maintenant, on ne gagne rien.
Stéphane, 35 ans, lui aussi a connu une véritable rupture durant l'année 2020. Il a été employé dans un supermarché pendant 10 ans en CDD, licencié fin 2019. Il retrouve un emploi en octobre 2020, mais...
Malheureusement, avec le Covid, j'ai pas pu rester. Donc ils ont un peu diminué les effectifs. Et comme je venais juste d'arriver, j'ai été le premier à partir.
Le voilà sans aucun emploi depuis 1 an, changement total du niveau de vie.
On peut carrément dire que c'est le jour et la nuit, parce que je suis quand même passé de 1445 net à environ 497 euros tous les mois. Donc j'ai dû retourner chez ma mère, parce que c'est plus possible justement d'avoir un appartement.
Terminé aussi les loisirs, il prépare maintenant une reconversion. Comme Stéphane et Émile, près de 2 millions de bénéficiaires du RSA tentent de rebondir. Leur proportion a augmenté de 5,6% en 2020, selon l'INSEE.
Après le record de mardi, nouveau record hier à la Bourse de Paris, porté par les bons résultats des entreprises, notamment du luxe. Au procès des attentats du 13 novembre, la Cour a entendu hier l'un des principaux accusés, Mohamed Bakali, déjà condamné pour l'attentat du Thalys, poursuivi ici pour avoir acheminé et hébergé les terroristes et qui a surpris Jean-Philippe Deniau par son intelligence.
C'est l'histoire d'un garçon qui grandit bon élève dans une famille unie, mais qui vire pas très sérieux à l'adolescence, pas très motivé. Je voulais gagner ma vie. Pas question d'évoquer les faits à ce stade des débats. Pas un mot donc sur son rôle supposé de logisticien des attentats pour lequel il encourt la perpétuité. Non, la cour veut en savoir plus sur ce détenu décrit tranquille et calme. Oh, pas toujours, s'explique Bakali dans un récit posé qui trahit une grande maîtrise de la situation. L'isolement influe sur mon caractère. Je ne dis pas ça pour me plaindre et ce n'est pas en opposition avec la souffrance des victimes, mais être privé des contacts sociaux impacte sur notre psychisme. Si on ôte à l'être humain sa sociabilité, on lui ôte son humanité. Les contraintes sont normales, mais c'est difficile à supporter quand on sait qu'on peut avoir une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Vous suivez une formation en prison, demande le président. Oui, je viens d'avoir ma licence en sociologie, répond Bakali. Ça m'a permis de complexifier ma compréhension des choses et je souhaite continuer d'apprendre sur ce que je ne vis plus. Il faudrait d'ailleurs que j'écrive un livre.
Le procès des attentats, c'est aussi tous les jours à suivre sur franceinter.fr. Un policier parisien jugé ce matin à Bobigny pour injure raciste. 6 autres appelés à comparaître. En avril dernier, leur interpellation d'un Égyptien sur les bords de Seine avait été filmée par un riverain. Un nul à Leipzig de partout. Le PSG toujours en course pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football, mais qui ne s'est pas rassuré hier sur sa qualité de jeu. Et puis à quelques mois de la présidentielle, pourquoi ne pas se replonger dans ce qui a fait la grande la petite histoire de la 5e République. Douce France relève le défi en 2 heures. Cette comédie satirique dévoile les coulisses de l'Élysée de De Gaulle à Macron en s'appuyant sur les archives. Et Stéphane Capron s'est régalé.
Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Au revoir.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner.
Douce France est un condensé de la vie politique des 50 dernières années avec des archives de l'INA, mais aussi des histoires savoureuses racontées par 2 conseillers politiques imaginaires, Pierre-Marie Joseph et Capucin, qui ont travaillé avec tous les présidents de la 5e République. Tout est vrai dans la pièce. Stéphane-Olivier Bisson, co-auteur avec David Salles, est allé puiser dans la mémoire des discours politiques pour écrire les dialogues.
Ce qui me passionnait là-dedans, c'était d'aller chercher l'historique, le vrai, l'authentique, dans des documents qui soient sérieux, pas simplement laisser libre cours à un spectacle orienté, militant ou à de simples vannes. Tout ce que j'ai pu trouver dans la matière brute de l'histoire est infiniment plus effarant que tout ce que j'aurais pu imaginer.
La matière est politique, le ton tient du vaudeville.
Le rythme est celui-là. On a bien remarqué en travaillant que si on descendait en dessous de ce rythme à la Fédo, que les choses devenaient empesées. D'où la vivacité aussi de l'intervention des archives, la vivacité des répliques. On ne s'attarde pas.
Effectivement, le spectacle va à 100 à l'heure, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est croustillant et révélateur aussi d'un pouvoir politique dominé par les hommes.
Voilà, et Douce France est en ce moment au théâtre Tristan Bernard à Paris.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le Zoom aujourd'hui à Cologne.